Bon, bah alors c'est parti. Soyez court, soyez concis,
Ce qui est bien, Tom, c'est que tu dis ça à chaque fois et on n'y arrive jamais.
Zach Morris, vous irez écouter Serial Causeur en retenue.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, la reine Elisabeth est morte, Drucker est sur France 3, des chiffres et des lettres ne passent plus tous les jours, c'est ça, le monde d'après. Mais les séries, elles, sont encore là, plus pour très longtemps, je ne sais pas. Tout comme Stéphane.
Oui, bonjour.
Super.
Mélanie est parmi nous.
Bonjour.
Et le petit Maxime est là.
Et attends, Michel Drucker est vraiment passé sur France 3?
Oui.
Oh, ma grand-mère doit être en PLS.
Parce qu'elle sait ce que veut dire PLS.
Bien sûr, quand même. Mamie, elle est alerte.
Alors, on a regardé quelques séries, on va tout vous dire. On commence avec The Hands. Alors, je vais mettre des H partout. Je vais mettre des H partout, vu qu'Aki n'est pas là. The Hands, Hate, Tales. Maxime.
Oui.
Dis-nous tout, ça vient de commencer.
Oui, il y a les deux premiers épisodes qui sont sortis la semaine dernière. Et ça reprend à la toute fin de la saison 4, où on peut spoiler la fin de la saison 4.
Oui.
Oui. Donc à la fin de la saison 4, il y a plusieurs anciennes headmates, menées par June, bien sûr. Elle est toujours là. Hein, voilà. Qui tue le commandant mince.
Ah, c'était pas Bradley Whit.
Non. Merde. Non, Waterford, oui, voilà, qui le tue, et voilà, la saison se terminait sur ça, et la saison 5 se débute sur ce meurtre et sur sa résolution. Vraiment, en un épisode, on a la résolution du meurtre et de June qui est, entre guillemets, reconnue coupable, mais n'est pas punie pour ça, et on voit que June va complètement partir en couille. De toute façon, elle part en couille depuis 4 saisons, donc c'est pas très étonnant. Et on va assister, je pense, dans cette saison, à un duel entre elle et Serena. Serena qui retourne à Gilead et veut, en gros, venger la mort de son mari et redorer son image. Pour ça, c'est le premier épisode où on se focalise beaucoup sur ça. Et ma foi, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Une fois, en fait, qu'on a compris que la série n'aurait plus rien à dire d'intéressant sur le féminisme et sur le danger pour les femmes par rapport à l'Amérique de Trump, parce que c'est clairement le cas, là, ils sont partis tellement loin que je trouve que leur propos de base, il est complètement dilué dans le personnage de June, en fait. Une fois qu'on a accepté ça, bon, ça reste quand même un peu fun, assez divertissant à regarder, mais c'est ça en fait qui est dérangeant, c'est que ça devient divertissant, et le deuxième épisode est clairement là-dedans, où on retrouve tous les personnages de Gilead, beaucoup moins de June, quand même un petit peu, hein, faudrait pas se priver d'un épisode avec Elizabeth Moss, enfin, on voit qu'elle est vraiment là pour encaisser l'échec et peut-être les Emmy, et du coup on retourne un petit peu sur des personnages qu'on connaît, et là ça redevient un peu du torture porn, mais quasiment, enfin... En regardant une mort importante pour les fans de la série, pour le coup là je vais pas spoiler parce que c'était la semaine dernière, je me suis vraiment dit on est dans du Tarantino et on est là pour choquer.
Et... Mais est-ce que ça s'est dégradé, enfin je sais pas parce que c'était déjà assez quand même pas très intéressant au départ, mais est-ce qu'ils exagèrent de plus en plus ou pas du... Non,
c'est pas possible Stéphane.
Non, mais est-ce qu'ils exagèrent? Est-ce qu'ils vont toujours plus loin juste pour le plaisir d'aller plus loin? Ou est-ce que, bon, tu t'as dit tout à l'heure que ça racontait plus grand-chose, mais malgré tout, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ils essayent de dire quelque chose.
Et au niveau de June, je trouve qu'ils vont toujours plus loin pour aller plus loin. En fait, le personnage a clairement tellement tourné en rond qu'ils vont lui donner tout pour exister, et malheureusement, ça passe par la surenchère. Après, autour de ça... sur le fait d'instituer Gilead comme une nation reconnue aux yeux du monde. Enfin, c'est tout le sujet de l'épisode 2, tout ce truc un peu diplomatique et comment on utilise en fait notre image pour devenir crédible et pour devenir vrai. Vraiment un peu le truc à la Trump, quoi. Là, ça reste quand même un petit peu intéressant. Mais malheureusement, à chaque fois, il y a June pour venir tout péter et vraiment, le personnage est devenu le pire ennemi de la série. Pour moi, c'est
ce qu'ils lui disent dans le premier épisode.
Oui.
C'est devenu elle contre tout le monde.
Mm. Je pense que je vais suivre jusqu'à la fin parce que le monde créé a quand même du potentiel et il l'exploite de temps en temps et ça devient intéressant, notamment entre Sam Jagger et Jagger, je sais plus comment on dit, et Ivan Stravosky, où je trouve que la relation est très bien construite et les personnages sont super intéressants. Après, au-delà de ça, c'est clairement vraiment plus la série que c'était à la base, vraiment plus.
Et c'en est où par rapport à l'adaptation du roman, ça s'en écarte ou ça?
Ah mais c'est même plus que ça, c'est que le roman c'est que la saison 1. Depuis, d'accord, c'est que ils ont que brodé sur l'histoire de base.
Mais c'est peut-être ça aussi, ça pour ça qu'ils se sont perdus, hein, étant donné qu'ils n'ont plus de matériel de base et que quand même c'est Margaret Atwood et que c'est un prix Nobel, se retrouver sans ce confort-là d'avoir un matériel à adapter, c'est un peu compliqué.
Il y a un deuxième roman, est-ce que
c'est un préquel en plus, dedans, ou... Mais c'est celui qui va être adapté après la fin de la série, là, The Testament.
Ouais, c'est ça. D'accord. Apparemment, ils vont terminer la série The Handmaid's Tale de manière à ce que ce soit en continuité avec le roman. J'ai pas lu le deuxième roman. Donc, je sais pas où ça
Il y a un deuxième. Je croyais qu'elle avait écrit un truc, mais qui était avant.
Non, c'est après.
Ah, c'est après, d'accord.
Ouais, 15 ans après, ouais.
Ouais. Donc, a priori, on ne reverrait plus John, mais ils veulent amener la série jusqu'à un point où ça permettra une deuxième adaptation. Après, vu tout ce qu'ils ont fait entre-temps, si Margaret Atwood était déjà dans les petits papiers pour savoir ce qui se passait en saison 4, 5, 6, je vois mal comment ils peuvent raccrocher les wagons.
Parce que t'as lu The Testament, tu sais ce qui se passe ?
Non, alors je sais ce qui se passe à peu près, enfin dans les grandes lignes, j'ai lu la quatrième de couverture à la librairie, quoi. en fait, franchement, s'ils reviennent au point de départ de The Testament, je me dirais, ouais, tout ça pour ça, tout ce foin pour ça.
C'est ça le problème d'avoir des séries qui sont ultra populaires et que tu sais pas quoi en faire. Hein.
C'est ça.
Donc elle a duré trop longtemps.
Ah oui, clairement.
Et en faire une saison 6... C'est celle de trop encore. Enfin, ils pourraient arrêter là, quoi.
C'est déjà la saison de trop à la saison 2, alors imagine.
Mais pour moi, le fait que plus personne ne la regarde ou alors que plus personne n'en parle, c'est vraiment encore une fois le fait que la série repose sur un personnage et sur une actrice, et pourtant qui évolue dans une mythologie qui va être un peu complexe, avec des allers-retours, de la construction par petites touches, et en fait, les autres personnages existent à peine. Et du coup, tu peux t'attacher qu'à un seul personnage, et même maintenant, tu peux plus t'y attacher tellement elle est devenue fucked up. Donc, et incohérente en plus. Donc, enfin, vraiment, moi, je regarde clairement pas pour les personnages parce que franchement, c'est quand même très très pauvre et j'aimerais pas être les scénaristes derrière.
Avoir fait tourner Alexis Bledel, non, elle a quitté la série, mais le personnage d'Emily à Gilead, déjà, ça n'a aucun sens. C'est vraiment parce qu'ils avaient rien d'autre sous la main, mais. Je me suis dit, mais ils n'ont pas réfléchi deux secondes, ça n'a aucun sens. Elle a tout fait pour en partir, et puis là, on va dire qu'elle y retourne. Pourquoi ? J'ai pas bien compris, mais ils auraient dû la tuer, quoi. Carrément, moi, ça aurait eu peut-être un peu plus de sens. Je sais pas, qu'elle se suicide parce qu'elle en pouvait plus, je sais pas, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment niveau zéro du scénario, quoi.
Il commence à amorcer un truc sur ces deux premiers épisodes de personnes, de femmes qui ont été maltraitées, un espèce de syndrome de Stockholm. Elles veulent y retourner. Ouais. Donc, il passe par le personnage d'Emily, en effet. Donc, Alexis Bledel a disparu de la série parce qu'elle est retournée à Gilead. Et clairement, c'est même pas spoilé tellement c'est fait en une scène. Et ça n'a, en effet, comme dit Mélanie, aucun putain de sens. Vraiment, elle a sa famille à Gilead. On l'a vu à peine 20 minutes la saison précédente, donc on peut même pas suivre le personnage, voir si elle a des doutes, si elle s'acclimate mal. Et elle fait un acte à la fin de la saison 4 qui te dit qu'elle va quand même rentrer dans une certaine résistance, qu'elle retrouve aussi des liens avec les personnes qui sont là. Enfin, vraiment, sa disparition, en effet, ça a vraiment aucun putain de sens.
Ah, et puis en plus, ils te le disent bien 5 fois, 6 fois. Ouais. Non, elle reviendra pas, c'est sûr, on la reverra jamais. Je sais plus le nom de leur enfant ou deux, je sais plus, mais bref, il reverra jamais sa mère, c'est pas la peine, on abandonne, n'espérez plus.
Je vois bien les scénaristes dans la writer's room faire vraiment stabilote ça. Je pense qu'ils ont pas compris. Elle reviendra pas.
On va bien insister 5-6 fois, quoi.
Ah ouais, non, c'est ça en fait. C'est que l'écriture est vraiment tellement grossière que t'as des trucs qui se passent qui pourraient être importants dans la série et plutôt bien vu si c'était fait sur le long cours et vraiment si on voyait que le personnage de Emily avait vraiment ce besoin de retourner parce que elle veut se venger, elle veut mettre un terme.
Oui, voilà, il y avait des raisons. Ils auraient pu trouver quelque chose. Là, c'est nul, quoi. Ça n'a aucun intérêt.
Ils en parlent depuis le début avec June. Elle est constamment attirée par Gilead, soit pour sa fille, soit pour se venger, soit pour.
Ouais. Oui, c'est vrai, elle a une fille.
Et vraiment, à chaque fois, je trouve que c'est tellement écrit avec les pieds que t'as vraiment l'impression de voir un personnage capricieux qui ne comprend pas qu'à un moment, il faut se sauver, sinon elle va mourir, qu'elle n'a aucune chance de faire ce qu'elle veut faire sans aide. Enfin, en fait, ils écrivent des personnages tellement débiles que même le fait qu'elles soient en colère, qu'elles aient la rage, qu'elles aient envie de se venger, ce qui est totalement compréhensible, ils insistent énormément avec les flashbacks sur les deux premiers épisodes de tout ce que June a subi de la part du couple. On est au-delà de ça avec ce personnage et du coup ça n'a vraiment plus aucun sens. Enfin, c'est assez intéressant de voir un naufrage sur un personnage comme ça alors qu'au tout début c'était vraiment Elizabeth Moss et June, enfin vraiment le succès des deux trois premières saisons, c'était elle, quoi.
Non, et puis en plus de voir qu'on s'est autant moqué du fait des gros plans, tout ça, et qu'ils le gardent quand même.
Ouais.
Que maintenant c'est vraiment too much. Ils auraient pu changer un peu la réalisation, se dire on en fait peut-être un petit peu moins. Et non, ils sont toujours à fond dedans. On garde les gros plans non-stop.
Alors si, ils ont innové cette saison. Maintenant, ils font de la contre-plongée pour montrer que June est devenue méchante. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui sort d'école de ciné chez les réalisateurs. T'as un plan de facile 30 secondes, et 30 secondes, ça peut quand même être long, et de Elizabeth Moss en contre-plongée, et pour montrer qu'elle passe de l'effroi au sourire. Vraiment, je me suis dit, ils ont vu le Joker et ils veulent essayer de faire un truc un peu similaire, quoi. Enfin, c'est assez étonnant de voir que tu peux faire une photo aussi léchée, de faire des saisons qui sont quand même plutôt bien écrites et d'inventer un monde qui pourrait tellement être intéressant et de faire des trucs aussi bateaux. Enfin non, je sais pas.
Est-ce qu'il y aura moyen de peut-être redresser la barre ou pas du tout?
Non, bah c'est déjà...
Non.
Je crois pas. Saison 5...
Je vois pas comment. À moins de se débarrasser
de la prochaine.
Ouais.
Bah, ils vont pas se débarrasser d'elle à une saison de la fin.
Bah ouais, mais malheureusement, ils auraient dû le faire il y a une saison, quoi.
Ben voilà. T'en sais rien, c'est pas encore fait. Peut-être qu'elle va pas aimer son contrat et puis claquer la porte.
C'est vrai.
Le problème, c'est qu'il y a plus personne pour prendre la suite. Les personnages sont tellement insipides autour qu'il y a pas vraiment de matière à la faire disparaître et à capitaliser sur d'autres personnages. En tout cas, les personnages qui ne sont pas à Gilead. À Gilead, je pense qu'il y aurait moyen de faire d'autres choses, de voir un peu plus le contexte géopolitique. Enfin voilà, je pense que ça, franchement, s'ils se penchaient là-dessus, il y aurait des trucs à faire. Mais en termes de personnages, non. En termes d'histoire de personnages, il n'y a plus rien. C'est fini.
C'est sur OCS, en US plus 24, donc dès le lendemain de la diffusion américaine. Donc il y aura combien d'épisodes là? Une dizaine, j'imagine,
10.
Comme les précédents. 10. Ouais. Bad Sister, Stéphane Kesako.
C'est une nouvelle série de Apple TV+, et c'est une adaptation d'une série belge qui s'appelle Le Clan, par Sharon Horgan, ma petite Sharon que j'adore beaucoup, qui a été co-créatrice de Catastrophe. Qu'est-ce qu'elle a fait récemment? Elle a fait Shining Veil, et elle a fait d'autres trucs dont je ne me souviens plus. Et elle joue dans This Way Up aussi, avec sa copine Ashley B. C'est cinq sœurs, les sœurs Garvey dont en fait il y en a quatre qui vont plus ou moins s'associer pour tuer le mari de la cinquième, parce que elle est quand même assez maltraitée. Et donc on va plus ou moins suivre. C'est bien parce que nous sommes au sixième épisode et on sait toujours pas comment le mari est mort. Donc c'est plutôt malin sur ce coup-là, parce que ça joue avec. Il y a eu plusieurs tentatives et ça joue avec nos nerfs, et surtout avec. C'est assez cruel parce que c'est très dur de voir Grey se faire chahuter, maltraiter, mal parler. Enfin, c'est pour le coup, ça fait mal au cœur.
Et pour rebondir sur ce que dit Stéphane, c'est que vraiment, là où c'est super intelligent, là où on a vu d'autres séries où il y avait des goujats, et je pense notamment à Desperate Housewives, mais à chaque fois, c'était forcé sur un trait. Soit une misogynie vraiment très forte, soit vraiment c'était ce qu'on appelle des gros gros connards.
Là, c'est le plus.
Mais c'est là où ce que je trouve super intelligent avec ce mari, c'est que c'est vraiment dans les petits trucs, dans la petite mesquinerie, dans la petite remarque qui, en fait, te tue une confiance, te tue. Il fait pas des choses. Ouais, c'est ça. C'est vraiment il rabaisse les gens et son propre égoïsme blesse les autres physiquement, même parfois, notamment une des sœurs qui a des raisons de se venger parce qu'en fait elle a un œil en moins. Et vraiment, en fait, c'est pas un gros connard dans le sens où il va tuer quelqu'un ou alors je sais pas, il fait pas d'actes pénalement.
Ouais, il détruit la santé mentale quand même de tout son entourage.
Mais c'est ça, mais pas en étant pervers. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est...
Ah,
c'est...
Non, il est juste toxique, quoi.
C'est, voilà, oui. C'est la toxicité, oui. Mais du quotidien. Du quotidien. C'est tout ce qu'un homme vraiment des cavernes pourrait faire pour saper le moral de son entourage et sans, je pense, sans s'en rendre compte totalement. C'est ça, le pire, c'est que le mec continue comme si c'était normal. Tu vois, de dire à sa femme c'est de ta faute, alors que sciemment c'est la sienne, juste pour se dédouaner auprès de sa fille. Moi, là, c'est une scène du cinquième épisode, je crois, où il y a un animal de compagnie qui meurt, c'est lui qui le renverse, et t'as sa femme qui arrive et qui se rend compte que l'animal est mort derrière sa voiture sans qu'elle l'ait renversé. Et le mec dit que c'est elle, il lui dit t'inquiète pas, c'est pas ta faute, tu pouvais pas le voir et tout. Enfin,
ça l'arrangeait bien parce que l'animal avait été donné aussi par une autre sœur.
Ouais, non mais c'est vraiment, ouais, tu attends de voir comment il va mourir parce que vraiment, plus tu attends, plus tu vois à quel point c'est un méga connard et plus tu te dis ah ouais, elles avaient clairement raison de le faire.
Oui, et en fait, il y a une histoire derrière, ça commence avec des assurances qui essayent de savoir si le mec est bien mort de mort naturelle ou on l'a un petit peu aidé. Donc en fait, il y a des gens qui mettent le bordel dans la famille Garvey, les sœurs Garvey, à cause de cette enquête-là pour les assurances, quoi. Voilà.
Enquête qui, en plus, est provoquée non pas parce qu'ils ont un doute, mais parce que c'est des escrocs de première pour renflouer leur caisse et que pour eux, rien que le doute qu'il n'est pas mort d'une mort accidentelle, ouais. Ça va leur rapporter de la thune. Donc ils font ça non pas parce qu'ils ont des doutes sur les sœurs, et ça va émerger plus tard, mais c'est parce qu'ils veulent de la thune. Donc vraiment, les mecs dans cette série sont des connards.
Pour le coup, c'est son premier drame, hein, qui est considéré comme un drame.
Il y a un peu d'humour ou pas du tout? Parce que je l'ai pas.
Par contre, c'est du organe, donc oui, tu rigoles tout le temps, mais tu rigoles des fois très très jeune, quoi. Voilà.
Ah, c'était ma question. Est-ce que c'était plus proche d'un Desperate, d'un Succession ou d'autre chose ou...
C'est
une comédie noire, une dramédie.
Mais franchement, il y a une vibe Desperate Housewives que tu peux pas, t'es obligé d'y penser, clairement. Mais c'est quand même un peu plus intelligent et un peu plus malin dans la cruauté et dans les portraits des sœurs et même du connard qui est joué, JP, le mari, quoi.
C'est moins léger que Desperate, quoi.
Oui.
Tu crois un peu plus au personnage aussi. Tu crois vraiment que c'est une fratrie, qu'ils instaurent des petites choses, par exemple des petits rituels au Nouvel An. Elles vont toutes se baigner ensemble. C'est un rituel qu'elles ont depuis qu'elles sont toutes petites. Voilà, ils mettent des petites choses qui fait que tu crois vraiment à.
Ça pourrait être n'importe qui. Oui, voilà, ça pourrait être n'importe qui autour de toi, quoi.
Ouais. Et t'as moins. Enfin, moi, je trouve que dans Desperate Housewives, ça fonctionnait d'une manière différente, mais on croyait pas vraiment à l'amitié de ces femmes. Enfin. J'avais pas l'impression qu'elles étaient vraiment amies, qu'elles avaient
elles étaient amies par la force des choses.
Ouais, voilà. Mais après, ça nous arrangeait aussi pour la série. Mais là, vraiment, tu crois au personnage, tu crois à ce qu'elles vivent. Il n'y a pas ce truc un peu absurde ou en tout cas burlesque. Non, pas burlesque, un peu vaudeville qu'on pourrait retrouver dans ce genre de série.
Et il faut dire que c'est porté par un super casting quand même. C'est vraiment exceptionnel. Toutes les sœurs et même JP là qui je sais plus comment il s'appelle, il jouait dans c'était Dracula de Stephen Moffat là, Claes Bang, qui est juste l'incarnation du pire connard qui peut exister sur Terre.
Et donc c'est sur Apple TV plus. Avis Express Stéphane, parce que ça a été le retour quand même de Hartley Cœur à Vif en VO Heartbreak High sur Netflix. Ciao Drazik, ciao Anita, qu'est-ce que ça donne?
Alors, j'ai vu des épisodes de Hartley Cœur à Vif quand j'étais plus jeune.
Mais personne, mais je ne suivais pas la série en entier, personne.
Bah ouais, voilà. Mais je ne suivais pas. Donc, moi, c'est une série avec des ados. comme une autre, et en fait, elle est plutôt sympathique, quoi. Ça parle des ados de notre, enfin, j'allais dire de notre temps, mais non, du temps actuel, pas du nôtre. C'est pas de notre génération. Et c'est plutôt fun, frais, et bon, à mon avis, j'en ai pas vu, j'ai pas tout vu encore, mais il y a un truc dramatique qui s'est passé, mais on sait pas encore quoi. Même si on nous laisse penser que ça va être assez costaud. Mais non, franchement, ça se regarde très bien.
C'est pas un format Excel, Netflix, comme ils ont pu faire plusieurs séries ados
Moi, je te dirais que non, parce qu'au contraire, ça détonne un petit peu. Comme je ne sais plus à qui je le disais en off, là, ça, je le rapprocherais d'une génération, tu vois, de HBO Max. Donc, d'ailleurs, il y a même plus ou moins la même chose. Parce que dans Génération, ils se réunissent tous dans une classe, ils font un truc ensemble, et ben là aussi, ils sont forcés à faire un truc sur la sexualité ensemble.
Le sexe, ben, pour vendre.
Eh oui. Mais par contre, comme tu as regardé la série originale, tu peux me dire si ça parle de sexe autant.
Non, c'était vraiment le quotidien bateau, quoi.
Ah, parce que là, ça part quand même d'un truc où, en fait, il y a quelqu'un qui fait une map, enfin, une carte avec toutes les relations entre tous les élèves et en expliquant ce qu'ils ont fait. Lui, il a branlé lui, il a sucé lui, elle a des,
ah ouais, non, c'était pas
des lèvres
ça,
gigantesques
non.
Et tout ça, machin. Ah ben voilà. Mais ça commence là-dessus et je me suis dit, mais purée, s'ils avaient fait ça dans la série originale, moi je dis chapeau quand même.
Non, mais c'est vrai que tous les teen shows actuels sont quand même très portés sur le cul. Et je me demande vraiment si c'est comme ça la jeunesse actuelle, parce que, ou alors si c'est un besoin, enfin pas un besoin, mais je sais pas, est-ce qu'on on donne une image un peu biaisée de cette jeunesse là, est-ce qu'on en fait une caricature, parce que je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit aussi
Moi j'ai l'impression que sur les séries ados actuelles on calque un peu notre regard d'adulte sur la sexualité pour ados, et que c'est forcément quelque chose de tabou ou de transgressif parce qu'on teste et tout, alors que je pense que, enfin, après je veux pas m'avancer, je suis plus un ado hein, malheureusement, je pense pas que pour les ados ce soit tant un sujet que ça maintenant, et qu'il y a quand même beaucoup plus de facilité à en parler et de banalité dans l'acte sexuel, enfin je suppose que à notre époque en tout cas. Donc là le fait d'en faire un truc, je pense notamment à Euphoria, où c'est toujours quelque chose de
ouais, alors ça va pas aussi loin qu'Euphoria quand même.
Non, mais Euphoria c'est too much.
Non, mais voilà. C'est juste une tendance générale où j'ai l'impression qu'on veut trop en faire, et que parfois ça va un peu à l'inverse de ce que ça devrait faire, montrer que les ados font des trucs un peu chelous et tout machin. Mais enfin, désolé, les ados ils sont bien trop occupés déjà à découvrir leur propre corps, à découvrir la sexualité. Mmh. Enfin, avant d'aller jusque-là, c'est là où je trouve que Sex Education est un poil plus maligne. C'est que vraiment, ils parlent juste du sexe en lui-même et de l'acte. Et je pense que les ados sont plus occupés par ça que par tout ce que fait Euphoria.
Mais là, tu vois, dans le premier épisode, donc il y a cette histoire de carte avec tous les trucs, enfin, avec toutes les relations entre tous les personnages, mais en fait, on découvre plus le temps passe que, en fait, la plupart ont menti sur les relations et que, en fait, ils sont plus ou moins tous vierges et que, il y en a certains, c'est juste de l'espérance qui mentent sur ce qu'ils font vraiment. Voilà, clairement. Et pour le coup, ça donne une presque parfaite première scène de sexe entre deux jeunes. Même à un moment donné, ils ont oublié la capote. Voilà quoi. J'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, en 2022, on puisse pas écrire une scène de sexe entre deux ados sans capote. Mais tout le reste, c'était bien parce qu'ils parlent ce qu'ils font et ça galère et voilà quoi. Mais c'était
plutôt. C'est vrai que Skins à l'époque, c'était quand même un peu plus osé, enfin pour l'époque, et ça restait quand même sobre par rapport à tout ce qu'on voit maintenant. Enfin, je trouve que, enfin, moi, ça m'a toujours pas choqué, entre guillemets, Skins. J'ai toujours l'impression que ça racontait des choses.
Moi, c'était au niveau de la drogue.
Allait un peu trop loin, Skins. Alors que maintenant, quand je vois tout ce qu'on a à côté, je me dis, c'est quand même très, très sobre, Skins, quoi.
Mais Skins, oui, en effet, c'était des scènes de sexe qui étaient pas dérangeantes. Ce qui était dérangeant, c'était qu'ils étaient tout le temps sous coke quand ils faisaient, ou sous champignons, ou sous alcool. Enfin, pour moi, c'était plus ça qui faisait que c'était dérangeant.
C'est ça. Ouais. Mais je vous invite, hein, Tom, je t'invite à regarder malgré tout.
Non, mais je trouve que c'est pas du tout. Enfin, c'est plus du tout. Enfin, je trouve
c'est
que
c'est pas
je
dans l'ambiance, quoi.
Dedans, en fait. Tu vois, moi, je suis en train de mater Dawson, C'est quand même oui, bon, le jour et la nuit.
Mais il n'y a aucun caméo d'aucun acteur.
Et bien, je te dis ça, je ne peux pas te dire parce que je n'ai jamais trop regardé, donc il pourrait apparaître que je
non,
le
non,
serais
pas. Non, mais au cas où tu aurais vu un article passer, je ne sais pas, parce que je n'ai rien lu dessus.
Ah non, j'ai vu personne n'en parler, donc, alors que c'est
bah
quand même
ouais,
un article à vif. Quoi. Et en revanche, ce qui est bien, c'est que comme c'est australien, donc c'est du Netflix australien, eh bien en fait, ça, c'est assez dépaysant. Et c'est pas forcément les mêmes ce que tu pourrais voir penser des Américains, donc c'est très bien, ça change, ouais. c'est rafraîchissant.
Et là, toute la saison est disponible sur Netflix.
Oui.
Là. Combien d'épisodes?
8.
8, ah oui, petit. L'autre série, bah Stéphane, pareil, The Capture. Tu nous en parles tout le temps sur Twitter.
Tout le temps, ben oui, ben parce que c'est très très bien. Moi, c'est le truc qui me fait le plus flipper de. Sur le monde actuel, quoi. Enfin, avec la manipulation d'images, Oh, j'ai oublié le nom. Mais franchement, aujourd'hui, je suis fatigué.
Les deepfakes,
merci.
Je t'en prie.
On dirait que tu me lis sur Twitter, toi. Et non, voilà. Enfin, le propos actuel de la série est vraiment ce qu'il y a de plus glaçant. Franchement, ça te donne envie de fermer ton ordinateur, de balancer, de ne plus jamais aller sur Internet, quoi. Tout ça mélangé avec un thriller politique qui était vraiment très très bien pensé et très très malin. La saison 2 de The Capture, en fait, elle a surclassé la première, qui était juste pour le coup un thriller, tout ce qu'il y a de plus banal, mais très bien fait par la part de la BBC. Et là, franchement, c'est une très très grande saison, quoi. Elle mérite vraiment le coup d'œil.
Mais c'est compréhensif pour le spectateur lambda comme moi, ou est-ce que c'est quand même assez faut se concentrer?
Ah non, mais c'est là où le génie des scénaristes de la BBC, c'est vraiment du grand public. C'est vraiment un grand public. Et c'est vraiment très très bien foutu. Hein. C'est captivant. 6 épisodes de 1 heure, tu les lâches pas, quoi. Mais il y a Ron Perlman, si tu veux, dedans.
Ah
oh, ben voilà, je regarderai
ah,
pas.
Ah, mais il y a Frank Johnson.
Non.
Ah bon?
Ah ben si elle est dedans, elle est
par ah, non, c'est une autre série qui s'appelle pareil, qui est sur la BBC aussi, qui est... C'est pas du tout la même, alors.
Mais si.
Attends,
ben,
c'est peut-être la même. Hein. Je sais pas, il y a une série qui s'appelle The Capture.
Ben, avec Funke Johnson.
Avec Holiday Granger.
Oui,
Callum
tu le sais.
Turner. Ah ben voilà.
Ben, elle est où?
La Funke Johnson.
Mais tu l'as pas reconnue?
Ben, elle fait quoi?
Peut-être qu'elle ressemble...
Tu me diras, elle est tellement refaite.
Elle
aussi,
se ressemble peut-être plus. Hein.
Ben, elle joue qui?
Jessica Mallory.
Elle joue dans la saison 2?
Je ne sais pas.
Ah, parce que si c'est pas dans la saison 2, je m'en souviens pas de la saison 1, hein. Bon, ok, d'accord. Bah, si tu me dis qu'elle est là,
de la finir.
Doit y être. Hein. Et tu l'as vu dans la saison 1 ?
Je viens de finir la saison 1. Non, ouais, je crois que c'est ou le dernier ou les deux derniers épisodes. Elle arrive à la fin de la saison.
Ok, bah, d'accord. Bah, après la saison 1, c'était avant le Covid, c'était en 2019.
Bon, et donc c'est sur,
la
France,
BBC
quelque part ?
Bah, je ne sais pas, peut-être que ça arrive.
La saison 1 est sur Canal Plus Série et la saison 2 pas encore arrivée sur Canal Plus Série.
Saison 3.
Elle devrait arriver normalement.
Ben, avec la fin, peut-être qu'on n'aura peut-être pas de saison 3.
Ah.
Si c'était arrêté 30 secondes plus tôt, on aurait eu une saison 3. Et là, je ne suis pas sûr qu'on en ait une. Voilà.
Passons à Rick et Morty, saison 6 déjà. Mélanie, tu as commencé la saison. Qu'est-ce que ça donne?
Écoute, la saison démarre bien. Donc, le premier démarre avec Space Bess qui arrive pour retrouver Rick et Morty dans le... Je ne sais plus le nom de l'univers.
Ouais, c'est, en fait, c'est la suite directe de la saison 5, en fait.
Ah, il me semble.
C'est la suite directe.
D'accord, ok.
Donc voilà, la saison démarre sur ça. Et ensuite, l'épisode 2 est dédié à Die Hard. Que
oui,
c'était quoi?
C'était chiant à mourir, l'épisode 2.
Mais non!
Bah, moins que le 3 en tout cas. Enfin, non, c'est pas. C'était pas chiant, mais c'est vrai que quand ils ont pas trop d'idées, bah, ils en prennent une et ils les tirent. Mais c'était sympa, mais en fait, il se passait pas grand-chose.
Ils usent un petit peu le filon. Mais...
Bah, c'est un peu le cas à peu près sur 4 ou 5 épisodes de chaque saison, quoi.
Oui, bah oui. Mais c'est vrai que moi, le premier, j'avais bien aimé parce que c'est vraiment. On retrouve un peu le désir de faire un truc un peu what the fuck avec les plusieurs dimensions, les terres plus ou moins parallèles, choses comme ça, et ça fonctionne bien parce que en plus comme dit je sais plus si c'était Dan Harmon qui le disait, mais il y a un showrunner qui tient vraiment un catalogue, enfin même un scénariste je crois, qui tient vraiment un tableau avec tout ce qui se passe dans toutes les dimensions, et donc il sait qui va dans quoi Et donc, il y a une sorte de cohérence qui s'installe et ça fait plaisir de voir une série animée qui est assez dense dans ces liens entre
parfois
entre
trop
qui disait que ouais ben disait oui. que The Capture c'était compliqué à suivre. Il y a des fois en fait ils peuvent me balancer d'autres univers d'autres Rick et Morty, je les crois sans aucun ouais. souci. Enfin je me souviens plus du Rick et Morty de la saison 1 moi, donc
non mais c'est vrai qu'il faut se dire que ce qu'on voit c'est pas ça peut être n'importe quel Rick et Morty de n'importe quelle dimension, ça choquerait
ouais.
pas, tu vois.
Oui, oui, clairement.
Mais je trouve que c'est assez sympa. Là on retrouve quand même un ton beaucoup moins lourd qu'en saison 3. La saison 4 était un peu plus légère. C'est que la 3 était super déprimante.
Oui.
Puis où Rick était aussi dépressif. Enfin,
ah oui, c'est ça, oui.
Pour l'instant, ça va. Les idées sont là. Le troisième, c'est... alors, bizarrement, il est super sobre. Ça se passe que dans la maison. Et c'est avec Space Bess et Bess.
Encore Space Bess, d'accord.
Ouais, ouais, ouais. Parfois, ça sort un peu du chapeau, quoi, les idées, et ça fonctionne, on va dire, 2 fois sur 3, mais...
Moi, j'avoue que c'est un peu ce qui m'a fait aussi arrêter la série l'année dernière, ouais. en tout début de saison, c'est justement ce truc de toujours trouver l'idée un peu plus what the fuck, un peu plus vulgaire aussi, enfin, cette surenchère constante pour, en fait, je pense, pour eux, dans leur tête, pour rester pertinente, en fait.
Bah, c'est comme The Handmaid's Tale, au final.
Ouais, oui, oui, on peut voir ça comme ça.
Toujours obligé d'aller de l'avant et toujours plus dans le trash.
Ouais, et du coup, je trouvais qu'on perdait un peu, en effet, ce truc des saisons 1 et 2, où vraiment, on était plus dans la découverte de ce truc un peu foufou, mais qui n'était pas non plus obligé de se suivre. Et ouais, ils se sont perdus à vouloir lier leurs intrigues, à vouloir faire des retours, ouais. des clins d'œil aux épisodes précédents. Enfin, je trouve que c'est
lourd.
C'est too much.
Et en plus, ça va très vite. Donc, pour comprendre toutes les nuances.
Mais c'est vrai que t'as raison, c'est un humour qui va super vite. Et moi qui ris peu devant les séries, j'aime bien celles qui mettent un peu de temps à installer leurs blagues ou alors qui laissent du temps derrière la blague pour rire un peu. Par exemple, les Simpsons, je trouve que à chaque fois que Homer fait une connerie, c'est soit visuel et donc du coup tu captes de suite, soit c'est un bon mot et derrière il y a un petit silence ou quelque chose qui fait que voilà, tu vas percuter qu'il y a la blague. Alors je sais, c'est un peu il faut me prendre par la main pour me dire il y a une blague ici, mais en vrai, surtout quand tu joues sur la pop culture, il faut encore plus. Tu peux plus faire du name drop comme ça. Enfin, ça devient en fait tellement banal que tu captes même plus la blague.
Quand je la regarde avec ma fille, il y a plein de trucs qui lui passent au-dessus. Hein. Après, faut
faire
explication.
Je la regarde pas avec la fille de Mélanie. Il y a des trucs qui me passent au-dessus aussi. Hein, mais je comprends. Il y a des fois, je suis obligé de soit de faire pause et de remonter pour essayer de comprendre ce qu'ils essayent de me là où ça rit. Enfin, je suis censé rire, mais il y a des fois mes épisodes ils durent 25 minutes au lieu de 22. Hein.
Oui, voilà.
Voilà, c'est de l'humour intellectuel, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est con dans les situations, mais c'est intellectuel, c'est-à-dire que ça va chercher assez loin parfois.
Ouais, ouais mais ouais. Dans Community, il avait quand même réussi à, je sais pas, à ce que toutes les blagues soient lisibles en fait et que ce soit pas vraiment du one shot à part Abed, mais Abed était lui-même la blague de ça. Sur ça, donc.
En revanche, Rick et Morty, on ne sait pas quel est le ratio de Justin Roiland et de Dan Harmon. Qui fait quoi vraiment et qui fait 60% s'il faut, ce qu'on ne comprend pas, c'est les blagues de Justin Roiland.
Toute la liste des scénaristes, Harmon et Roiland, ils ne sont pas du tout dedans. Donc, je pense qu'ils chapotent le truc, mais ils ont laissé... depuis la saison 3, je pense qu'ils ont laissé les bébés à d'autres scénaristes un peu plus...
Il doit être showrunner malgré tout.
Tu peux pas changer, tu peux pas changer l'ADN d'une série et si elle a été inventée et réfléchie sur l'ADN Harmon, je vois mal des scénaristes changer totalement leur braquet en plein milieu de série.
Regardez comme 10 saisons, je sais plus combien, ça Harmon.
Oui, mais ils ont essayé de faire du Harmon quand même, hein. C'est juste qu'ils n'y arrivaient pas.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, c'est sur Adult Swim en US plus 24 en France. Je crois que les 5 premières saisons sont sur Netflix. The Good Fight, Maxime.
Oui, franchement, les Kings, ils nous lâchent pas cette année.
Non.
C'est trop bien.
Clairement.
C'est bientôt fini.
Oui, pour The Good Fight. Moi, j'ai bien aimé le premier épisode. Peut-être un peu en deçà de la saison 5, mais maintenant, je commence un peu à être habitué aussi avec The Good Fight. À ce qu'ils commencent doucement et qu'on ait un petit peu peur et qu'en fait ils finissent par faire un truc qui est vraiment super. Mais
l'ambiance n'est pas la même aussi.
Oui.
Il y a un... ils savent que c'est la fin, on sait que c'est la fin, et déjà l'atmosphère du premier épisode c'est complètement différent.
Ouais.
Parce qu'il faut dire que la saison 5 était quand même très 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 grande.
Oui, mais oui, t'as raison, sur le premier épisode j'ai vraiment eu l'impression d'un changement d'ambiance total.
Mais c'est pareil sur le 2.
Ah ouais ?
Oui.
Ok.
Parce que vraiment, ça va être très compliqué cette saison.
C'est très dépressif. Hein.
C'est dépressif. Pas mieux.
Et après, moi, je me suis dit que vraiment, ça continuait un peu ce qu'ils ont voulu faire sur les autres saisons, c'est-à-dire vraiment refléter le monde, mais un peu à leur manière, avec leurs personnages et ce truc un peu grandiloquent, mais qu'ils le faisaient à chaque fois très, très bien. Et c'est vrai que vu la période que passent les États-Unis au niveau droit pour les femmes, ou même la période, enfin le monde, le contexte global en ce moment, t'as vraiment ce truc, voilà, la lumière est très pesante dans la série, enfin dans le premier épisode elle est très bleue mais en même temps très froide, et ouais, j'étais super mélancolique en finissant le premier épisode, j'étais vraiment pas bien de pourtant c'est pas ce que je regarde, parce que les intrigues, enfin c'est pas qu'elles me touchent pas, j'adore The Good Fight, mais c'est pas des trucs qui me parlent directement, en tout cas dans ce premier épisode. Mais vraiment, sur les personnages, sur la photographie, j'ai trouvé ça... faut pas le regarder quand t'as un coup de mou, quoi.
Je crois que je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est... on peut pas faire mieux dans... C'est les artisans du chaos, quoi. Ils savent l'écrire, le chaos, tout le temps, pour tout, de toute manière. Enfin, surprenante. Les Kings, ils sont vrais, mais ils sont géniaux, quoi. Enfin, moi, il faut que j'arrête, parce que je vais être triste après de pas être vraiment leur fils adoptif, mais franchement... je sais pas quoi dire de je suis triste pour les gens qui ne connaissent pas le travail des Kings.
Je sais,
c'est dingue à quel point ils ratent quelque chose, quoi.
Je sais pas vous, mais moi, enfin, ça fait deux saisons, j'ai l'impression de voir Years and Years, mais vraiment de manière diffuse, comme s'ils diffusaient faisaient les histoires entre les épisodes de Years and Years, et enfin j'adore, je trouve que c'est brillant, mais enfin tellement fort. Voilà, c'est super déprimant.
Diane, avec son malaise face au monde, ce qu'elle vit et ce que... C'est même pas touchant, c'est au-delà. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de vivre la même chose qu'elle, en fait, quand je la regarde. Mm-hmm. Mais vis-à-vis du monde encore plus actuel aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est... Je sais pas, ça va être très compliqué à vivre émotionnellement, je pense, cette saison 6.
Tu vas me dire si le deuxième épisode est comme ça, mais moi, j'ai eu l'impression qu'en plus, tous les personnages étaient ultra seuls, plus personne ne parle, plus personne ne se fait confiance.
Ils essayent, mais c'est pas, ça va être... ça va être très compliqué.
Parce que vraiment, c'est un sentiment que j'avais pas dans The Good Wife, où il y avait toujours quelqu'un sur qui les personnages pouvaient se reposer. Mais là, vraiment, enfin, le Marissa m'a fait tellement de peine à vouloir essayer de trouver de l'aide en tant que nouvelle, et de pas en trouver, c'était dérangeant.
C'est des bulles de mélancolie et de tristesse vraiment généralisées qui font mal au cœur.
Ouais,
The Good Fight, il faut le regarder, les gens. Vraiment.
Mais oui, mais ça fait des années que tu le dis. Tu n'as jamais écouté.
Ouais, non, c'est vrai.
Et c'est dispo, nulle part.
The Good Fight est sur Teva quand même.
Oui.
Mais pas la saison 6, pas encore.
C'était sur Prime aussi.
Les trois premières saisons sont sur Prime, ouais. Primal. Primal. Stéphane. Primal.
On en a déjà parlé,
je crois, au début.
Ouais, je pense.
Ouais, ouais.
Là, c'est la saison 2 vient de se conclure. Même si j'ai beaucoup aimé cette saison 2, je la tempérerai parce que... En fait, à la base, c'était un homme et son dinosaure... Enfin, un homme versus un dinosaure qui devient son dinosaure, et voilà, quoi. Là, c'est le dinosaure et l'homme contre le reste du monde. Et en fait, le monde, il est peuplé de gens vraiment très, très méchants. Ça casse de ce qu'on a pu voir en saison 1. C'est comme si c'était une série différente, mais toujours très intéressante sur le fond, ce que ça raconte la difficulté de vivre, enfin de ne pas être seul, enfin pour affronter le monde, de survivre tout ce qui peut te tomber sur le coin de la gueule et qui n'est vraiment pas très très facile. C'est très bien. Je suis un petit peu déçu par les choix qui ont été faits, mais la fin, le dernier épisode rattrape beaucoup de choses et m'a beaucoup ému. Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est plus la série qu'on m'a vendue à la base, et que tout ce qu'elle a dit en saison 1 avec ses ajouts de nouveaux personnages, de civilisations, ouais, d'autres dinosaures et tout. Enfin, les autres dinosaures, ils étaient là, mais c'était pas la même manière. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est la même série et que du coup, tout ce qu'on a dit en saison 1 était un peu caduque et que maintenant, on repensait un peu ce qu'on voulait dire dans un monde un peu plus civilisé. Et ouais, c'est super dommage, en fait. J'étais toujours déconnecté des épisodes, de ce qu'ils voulaient dire, enfin de l'émotion, et j'étais plus l'intrigue. Ouais. Et l'intrigue n'était pas si intéressante que ça. Donc,
Surtout que ça a été beaucoup de déchaînements de violence un peu gratuits, mais pour le coup, il faut comprendre aussi Tartakovsky, c'est qu'il avait... C'est vrai qu'après 10 épisodes muets où ils étaient deux...
Ça marchait de ouf.
Oui, ça marchait de ouf, mais est-ce qu'il avait autre chose à raconter avec son homme des Cro-Magnons et son dinosaure
À la limite, tu restes dans le spectre, en tout cas dans l'ère historique que tu racontes. On aurait pu rencontrer d'autres hommes de Cro-Magnons ou d'autres dinosaures.
D'autres hommes de Cro-Magnons, non, parce qu'on te laisse comprendre quand même que c'est le dernier.
Oui, mais il y a quand même plus de choses à tirer de « en fait, t'es pas le dernier » et il y a deux ou trois autres personnes, donc tu peux construire autre chose sur ça que de leur dire « en fait, non, t'es plus le dernier » et en plus, il y en a plein d'autres et t'es même plus dans ton époque. Enfin,
si, il est dans son époque. Ouais, enfin bon, de toute façon, c'est un peu compliqué. Ouais. On sait pas trop.
Franchement, le dernier homme de Cro-Magnon qui rencontre des peuples aussi...
Non, mais déjà, l'homme de Cro-Magnon qui rencontre des dinosaures, donc déjà, de base, ça partait mal, mais aussi. Bon, voilà.
Aussi, mais tu vois, genre, à la limite, tu peux te dire, bon, là, on accepte, mais là, c'est trop. C'est trop.
Oui. Je suis tombé sur un épisode hier, je sais plus sur quelle chaîne.
Saison 1 ou saison 2 ?
Bon, ça devait être la 1.
Ah. Et alors ?
Je suis pas resté, mais... Non, mais j'étais pas venu pour regarder. Donc. Bah, très bien, et donc c'est sur quel...
Adult Swim.
Cousin américain. Adult Swim
et cousin américain. Allez, on termine par la reco de Stéphane, nouvelle rubrique. Allez, t'as 30 secondes pour nous faire rêver.
Donc, je vais vous parler de Ultra Loin, série de France TV. Donc, alors, pour la résumer rapidement, c'est des ultramarins qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, de Tahiti, de La Réunion, et qui sont accueillis dans une grande maison parisienne, en banlieue parisienne, pour pouvoir permettre à ces jeunes d'être logés avec des gens qui sont aussi déracinés de chez eux pour pouvoir aller faire leurs études dans la métropole. Et donc tu as une bande de jeunes dont les acteurs sont vraiment très très bons. Je ne pourrais pas citer les noms parce que je ne les connaissais pas et que je ne les ai pas sous les yeux, mais ils sont vraiment tous très bons et il y a quelque chose de très émouvant qui se dégage de la série. C'est parce qu'ils sont un petit peu en galère. Alors c'est vrai qu'être loin de chez soi, c'est toujours très compliqué. Enfin, moi, je l'ai vécu, mais bon, c'était en Belgique, donc c'était pas quand même pas si différent que ça. Mais enfin, là, l'ambiance est vraiment très émouvante. On aime les suivre et voir leur tristesse et leur la façon dont ils se retrouvent pour s'entraider et affronter le quotidien. C'est vraiment très très joli. Ça mérite vraiment le coup d'œil, quoi.
Et c'est dispo sur
France.tv.
France.tv.
Ouais. Il y a 8 épisodes et franchement, il faut se jeter dessus.
Eh bien, merci Stéphane.
C'était avec plaisir.
Merci Maxime, merci Mélanie.
De rien.
On se retrouve pour parler par exemple de Code Quantum.
Qui
commence bientôt, évidemment. Et on avait dit des Anneaux de Pouvoir et de House of the Dragon, il y a beaucoup de choses à dire, même s'il ne se passe pas grand-chose dedans. À bientôt, Salcoseur sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. À bientôt.